Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve François-Pierre Nizeri.
Chers amis et auditeurs de Canal Academy, bonjour et bienvenue dans l'émission Au fil des pages pour évoquer aujourd'hui un personnage à la fois hors du commun par son parcours et sa démarche et en même temps si proche du commun des mortels par son attachement à sa terre et aux hommes qui l'habitent. Derrière l'homme devenu personnage historique se profilent les contours d'une île, la Martinique, mais aussi la source à laquelle cette île puise une grande part de son âme, l'Afrique. Comment dès lors, pour évoquer Aimé Césaire, la Martinique et l'âme africaine, ne pas entendre le rédacteur en chef de la revue qui a depuis si longtemps porté la parole de l'Afrique, Présence africaine. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Romuald Foncoy. Romuald Foncoy, bonjour.
Bonjour.
Nous avons déjà parlé de la revue Présence africaine dans une autre émission, et ce n'est donc pas vraiment, pas seulement en tous les cas, à ce titre que nous vous avons invité, mais surtout parce que vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage tout à fait remarquable consacré à Aimé Césaire, publié en 2010 aux éditions Perrin, un livre qui vient compléter d'ailleurs bien d'autres ouvrages que vous avez déjà publiés sur la littérature et les cultures d'Afrique noire et des Antilles, notamment, mais pas seulement bien sûr, un essai sur une mesure du monde au XXe siècle, Édouard Glissant, aux éditions Honoré Champion en 2002, un livre à relire aujourd'hui en mémoire de ce grand homme de lettres disparu le 3 février 2011, et les discours de voyage Afrique-Antilles aux éditions Cartala en 1999. En tant que professeur à l'Université de Strasbourg et à l'École française de Middlebury, collège dans le Vermont aux États-Unis, vous ne cessez vous-même de traverser l'Atlantique, comme le faisait Aimé Césaire, à la fois maire de Fort-de-France et député à l'Assemblée nationale. Alors pour introduire cette émission, je ne vais pas trop m'attarder sur un rappel forcément incomplet de la biographie d'Aimé Césaire. Je me contenterai donc de quelques mots pour souligner, d'abord et avant tout, qu'Aimé Césaire, me semble-t-il, est un exemple finalement relativement rare d'un lien indéfectible entre le poétique et le politique, entre la littérature et l'engagement. Il y en a d'autres, bien sûr, mais alors à ce point, je ne sais pas. Nous reviendrons sur cet aspect du personnage, mais je voulais souligner d'entrée que sa traversée du XXe siècle, il est, rappelons-le, né en 1913 et mort en 2008, cette traversée du XXe siècle est marquée par cette relation de deux mondes a priori peu enclins à se parler. Après des études brillantes dans les années 30 à Paris, au lycée Louis-le-Grand, où il rencontre Léopold Sédar Senghor, et à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, il se lance très tôt dans l'écriture poétique avec notamment l'ouvrage de base qui le marquera à jamais, Le cahier d'un retour au pays natal, et d'autres poèmes publiés à l'époque dans la revue Tropique, dont la lecture fascinera André Breton et le rapprochera de la sphère, entre guillemets, de la sphère surréaliste. Son entrée en politique se fait progressivement. La poésie et la revue Tropique le conduisent naturellement à ses premières critiques politiques contre le colonialisme. Il est élu maire de Fort-de-France le 27 mai 1945 et, si je ne me trompe pas, le restera pendant 56 ans. Dans la foulée, il est élu à la première Assemblée nationale constituante le 4 novembre 1945 et restera député jusqu'en 1993. D'abord proche puis membre du Parti communiste, il s'en sépare en 1956 après sa fameuse lettre à Maurice Thorèse et fonde son propre parti, le Parti progressiste martiniquais, PPM. Et tout au long de sa vie, il ne cessera, bien entendu, de nourrir son action politique à la sève de la poésie et du théâtre, dont il fera une arme militante. Alors, ma première question, Romuald Foncoy, a trait à l'un de ces nombreux paradoxes qui jalonnent la vie d'Aimé Césaire. D'ailleurs, Raphaël Confiant titre son propre ouvrage sur Aimé Césaire « Une traversée paradoxale du siècle ». Aimé Césaire est un homme politique, donc un homme de pouvoir, un grand homme de lettres, donc ayant forcément accès au milieu littéraire officiel. Aimé Césaire avait pourtant une méfiance instinctive des honneurs institutionnels. Alors, nous sommes ici sur Canal Académie, la radio des académies, notamment l'Académie française, à laquelle Aimé Césaire n'a, semble-t-il, jamais songé à se porter candidat. Et vous racontez dans le premier chapitre de votre livre votre rencontre avec Aimé Césaire en 2006, au cours de laquelle vous lui rappelez que le journal Le Monde du 26 octobre 2006 a évoqué son entrée à l'Académie française. Et sa réponse, ça m'a amusé, je dois dire, de lire ça, sa réponse est d'abord un silence poli, poli, en soi une réponse assez claire, suivie d'un zeste d'ironie lorsqu'il lâche à ses interlocuteurs, à vous-même en particulier, « Mais enfin, vous me voyez, moi, en queue de pie !» Il fut par la suite élu membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer en octobre 2007, mais j'ai l'impression que vous doutez que cette élection résulte vraiment d'un acte volontaire de candidature de sa part. Césaire est alors un homme courtisé, mais n'aimant pas les courtisans. Alors, Romuald Foncoy, comment expliquez-vous cette réserve d'Aimé Césaire vis-à-vis des institutions académiques? Est-ce que c'est une modestie naturelle, un positionnement, une sorte de refus déontologique, en quelque sorte des vanités mondaines? Qu'est-ce qui se cache derrière ça?
Il me semble que ce qui se cache derrière cela, c'est la peur de la récupération. Et que tout au long de sa vie politique, tout au long de sa vie littéraire aussi, il a toujours eu très peur d'être récupéré par quelque mouvement que ce soit, échaudé sans doute par le parcours qu'il avait eu avec le Parti communiste, échaudé sans doute également par les différentes relations qu'il avait entretenues avec les hommes politiques français. Je songe ici à De Gaulle, je songe à Malraux, je songe à Pompidou. Et que tous ces gens, il les connaissait très bien, mais il avait toujours très peur d'être récupéré, je dirais d'être récupéré par le système. Et qu'il y avait sans doute chez lui un vieux fond rebelle, pour reprendre un terme qu'il aimait bien, un vieux fond rebelle qui faisait que tout ce qui est institutionnel français, tout ce qui avait trait à la reconnaissance que pouvait lui apporter la République, malgré tout, il s'en méfiait un tout petit peu. Il s'en méfiait un tout petit peu. D'autant que ce n'était pas une élection populaire. Alors là, il s'en méfiait encore un peu plus. Lui qui n'aimait qu'une seule chose, qui était le suffrage universel. Et je crois que c'est l'ensemble de tous ces éléments qui font qu'il se soit méfié un tout petit peu dès qu'on lui parlait de reconnaissance institutionnelle, comme à l'Académie, par exemple. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'il détestait l'Académie, puisque l'un de ses meilleurs amis était académicien. Je songe ici à Léopold Sédar Senghor. Et que je pense que lorsqu'il disait « Vous me voyez, moi, en queue de pie », en fait, il songeait à son ami Senghor, dont il se moquait de temps en temps. Je crois que c'était en fait cela, la réalité de l'histoire.
Venons-en, Romuald Foncoy, si vous voulez bien, à la relation qu'entretenait Aimé Césaire avec présence africaine. Et réciproquement, d'ailleurs. Au départ, il m'a semblé, ce n'était pas une relation si simple. Il y avait un engagement commun, l'Afrique, la présence africaine que Jacques Aulet, d'ailleurs, dans le premier numéro, je me souviens de notre émission qu'on avait faite là-dessus, dans le premier numéro, Jacques Aulet oppose la présence africaine à l'absence occidentale. Mais entre Alioune Diop, le fondateur de présence africaine, converti au catholicisme, et Aimé Césaire, militant communiste à l'époque des débuts de la revue, je suppose que les débats devaient être quand même parfois vifs. Et quand Alioune Diop parlait des Africains bourgeois et des Européens militants, j'imagine la réaction d'Aimé Césaire. Et du reste, j'ai noté qu'il ne contribue pas au numéro 1 de la revue. Alors, Romuald Foncoy, expliquez-nous un peu l'évolution de cette relation.
Je pense qu'en fait, l'évolution des relations entre Alioune Diop et Aimé Césaire, c'est exactement l'évolution de deux amoureux. En général, ça commence toujours très mal et ça se termine parfois très bien. Et je crois qu'en fait, c'est exactement le cas de ces deux géants, en quelque sorte, du monde noir des années 40, 50, 60 et 70, à savoir que dès le début, Alioune Diop ne comprend pas lui-même très bien ce jeune Martiniquais, puisqu'il a 3 ans de moins que lui. Alioune Diop est de 1910, lui est de 1913. Il ne comprend pas très bien ce jeune qui est venu de Martinique, cynique, voue un culte, alors qui est un culte débordant à l'Afrique, à une Afrique passéiste, une Afrique folkloriste. Et Césaire lui-même disait toujours, n'est-ce pas, je défends cette Afrique qui n'a jamais été véritablement défendue pour ce qu'elle était. Alioune Diop se dit, y a là un intellectuel qui peut-être perd un tout petit peu de ce qui est la qualité de l'intellectuel, c'est-à-dire une sorte de rationalité. Et dans le premier numéro de la revue Présence africaine, on ne sait pas pourquoi, mais Césaire, qui est pourtant un grand poète, qui a pourtant dans ses tiroirs des poèmes, qui a pourtant déjà écrit, qui est pourtant reconnu, ne livre aucun article, ne donne aucun poème, alors que tous les autres contributeurs le font sans aucun problème. Alors, il me semble que l'explication vient d'une méfiance réciproque, de l'un comme de l'autre. Méfiance de la part d'Alioune Diop, qui ne sait pas s'il faudrait faire confiance à ce jeune militant communiste, en plus, qui est assez engagé, à un moment où, il faudrait s'en souvenir, Alioune Diop est socialiste. Donc, entre les socialistes et les communistes, à la fin des années 40, ce n'est quand même pas l'alliance absolue. Et il se méfie d'autant plus de lui qu'il est vraiment engagé au Parti communiste. Et je crois qu'à l'inverse, Césaire se méfie d'Alioune Diop parce qu'il est doublement et socialiste et catholique. Alors, en toute rigueur, ça ne devrait pas lui poser de problème puisque son ami Senghor est lui aussi socialiste, mais lui aussi catholique. Sauf qu'à la différence de Senghor, Alioune n'a pas encore démissionné de la SFIO. Et donc, d'une certaine façon, il me semble qu'il y a là comme une sorte de méfiance réciproque. Mais cette méfiance réciproque va, j'allais dire, s'estomper très rapidement. Dès le début des années 50, lorsque, à la faveur de l'organisation justement du congrès, du premier congrès des écrivains artistes noirs à Paris, le rapprochement va se faire à telle enseigne que Césaire sera la voix d'Alioune et Alioune sera la plume de Césaire. Il y a comme une sorte de rapprochement entre les deux qui, au fond, ne va pas cesser jusqu'à la fin pour Alioune Diop et jusqu'à la fin pour Césaire, d'autant que celui-ci vouait une admiration sans borne pour Alioune Diop. Et une admiration d'autant plus importante que Alioune Diop a été, en 1956 et en 1957, quand Césaire se sépare du Parti communiste, il va être son soutien le plus fervent, son soutien le plus constant, lui ouvrant les portes de la revue Présence africaine pour qu'il puisse s'armer contre le Parti communiste, publiant la lettre à Maurice Thorez à un moment où personne n'en voulait en France, ameutant l'ensemble de tous les intellectuels noirs américains pour qu'ils défendent Césaire. Mais il a véritablement compté pour Césaire à cette époque-là parce qu'il a été fidèle, mais fidèle jusqu'au bout. Et il va être le seul à publier l'ensemble de tous ses textes. Et quand on s'intéresse à la biographie de Césaire, on s'aperçoit combien, à partir de 1955, il rapporte tout ce qu'il a publié, du point de vue de la littérature, à Présence africaine, parce qu'il est sûr que là-bas, il n'y aura pas de censure. Alors que pendant longtemps, il sera marginalisé et censuré. C'est, au fond, la rencontre entre deux intellectuels, méfiants dès le départ, mais bon, qui vont se retrouver un terrain d'entente et qui ne cessera pas ce terrain d'entente jusqu'à la fin des jours de l'un et de l'autre.
Romuald Francoua, si vous voulez bien, nous allons faire une petite pause musicale pendant cette émission et nous reprenons dans quelques instants. Revenons un peu maintenant, Romuald Francoua, si vous le voulez bien, sur la question centrale, je crois, du lien entre poétique et politique. C'est une question essentielle, évidemment, dans la vie d'Aimé Césaire. Le sens de son engagement, en quelque sorte, c'est la reconnaissance de la culture comme fondement de la politique. Un petit peu, on pourrait dire les choses comme ça. Et alors, il y a, par la suite, non seulement le tournant décisif de la rupture avec le communisme qui change un petit peu les données du problème, mais aussi, alors là, quelque chose d'assez hallucinant, cette polémique que vous racontez entre Césaire et Aragon sur la forme poétique classique comme moteur de la défense de la nation. Ça, c'est quand même très illustratif d'une différence de vision, il faut bien le dire, entre ces deux poètes sur la façon de considérer le lien entre la poétique et la politique. Dites-nous-en un peu plus sur cette polémique et ce qu'elle sous-tend.
Alors, la polémique, qui est une polémique que je trouve pour ma part assez intéressante, c'est un des grands reliefs de la vie littéraire et politique de Césaire. Vient du fait que De Pestre, le poète haïtien, était très lié au Parti communiste, comme Césaire lui-même. et très lié, lui, de Pestre, moins que César, à Aragon. Et qu'en 1955-1956, de Pestre, qui était à l'époque au Brésil et à Cuba, était en liaison avec les lettres françaises et avait soutenu Aragon dans une entreprise qui avait été la sienne, dès 1953-1954, lorsqu'Aragon voulait absolument revivifier, revigorer, revitaliser ce qu'il appelait le vers français. Pour lui, c'était le vers français et l'alexandrin qui étaient le symbole même de la nation. Pour pouvoir écrire la poésie, et que cette poésie soit française, il fallait écrire en vers. C'était en quelque sorte l'idée d'Aragon. Personne n'a jamais très bien compris pourquoi Aragon s'était lancé dans cette affaire. Surtout au début des années 50, à un moment où on est quand même plutôt dans le vers libre que dans le vers régulier. Et bon, sans doute voulait-il asseoir son idée à lui en tant que grand défenseur de la poésie française, en tant que grand Manitou de la poésie française de l'époque. Il voulait sans doute, pas faire un coup, mais montrer qu'il y avait peut-être une idée là, qui était une idée assez patriotique. Et il avait réuni un certain nombre d'auteurs français qui étaient supposés rendre compte de l'idée qu'au fond, dans l'inconscient collectif français, le vers est ce qui s'exprime le mieux pour rendre compte de la nation. De Pestre est tout content, il dit « Ben voilà, Aragon a absolument raison, moi c'est absolument vers là que je dois aller, il faut absolument que j'écrive en vers, c'est l'alexandrin en français qui est susceptible pour moi de rendre compte de la réalité de mon existence en tant qu'haïtien. » César lit la lettre de déclaration d'admiration de De Pestre adressée à Aragon et il est furieux. Il convoque Alioune Diop tout de suite en disant « On ne peut pas laisser ça passer, ce n'est pas possible, c'est en quelque sorte la marque même de l'aliénation ». Il écrit un poème, puisqu'il sait très bien faire des poèmes, il écrit un poème où il dénonce totalement cette attitude qui est une attitude d'Aragon qui ne comprend rien du tout à la poésie, lui qu'il considérait effectivement comme étant un grand poète haïtien. Alors à partir de là, va s'établir un grand conflit entre De Pestre et César. Mais en fait, quand on y réfléchit très bien, le conflit entre De Pestre et César n'est pas du tout un conflit entre De Pestre et César. Non, c'est un conflit entre César et Aragon. Car c'est derrière les propos de César, c'est Aragon qui est indexé, c'est lui qui est critiqué, et il est d'autant plus critiqué que Aragon, comme César, fait partie du Parti communiste français, qu'Aragon est considéré effectivement au parti comme étant celui qui organise, dirige tout ce qu'on fait dans le domaine de la littérature. Et qu'en plus, Aragon n'a jamais aimé César. César n'a jamais, par exemple, publié dans la revue d'Aragon, jamais. Et Aragon n'a jamais parlé de César, nulle part, jamais. Alors là, on peut chercher tant qu'on voudra, il n'en parle jamais. Et ça, César en avait conçu une sorte d'amertume, et là, il a trouvé effectivement le moyen, pas de se venger, mais de dire ce qu'il pensait effectivement d'Aragon. Alors là, tout y passe, y compris des choses qu'il va censurer après, parce que c'était inadmissible. Mais cette querelle-là, effectivement, est une querelle personnelle, mais c'est aussi une querelle autour d'un sujet qui lui importe, qui est le sujet de la liberté de création. Est-ce qu'il faudrait, quand on vient des Antilles, quand on vient d'Haïti, est-ce qu'il faudrait absolument subir les injonctions poétiques d'Aragon de l'époque? La réponse de César est non. Tous les domaines peut-être, sauf le domaine de la poésie. Et il ne revendiquait qu'une seule chose en poésie, qu'on le laisse écrire en poésie ce qu'il voudrait bien écrire, sans qu'il n'y ait des gardes chiourmes qui viennent lui expliquer ce qu'il fallait faire.
Eh bien écoutez, maintenant justement, on va parler de poésie. Poésie et théâtre. Et c'est un peu aux professeurs spécialistes littératures africaines et antillaises que je m'adresse maintenant plus précisément. Aimé Césaire, poète et dramaturge. Alors, par de là, donc, l'engagement politique, l'anticolonialisme, qu'est-ce qui caractérise l'œuvre littéraire d'Aimé Césaire? Qu'est-ce qui donne à ces mots leur force? Est-ce que c'est leur profondeur, voire, comme il le dit lui-même, leur obscurité? La poésie est obscure, dit-il lui-même, mais c'est un moins qui se transforme en plus. Ou alors est-ce que c'est l'oralité, la puissance de la parole? Est-ce que c'est également, éventuellement, le lien profond entre la poésie et les autres formes d'expression artistique? La musique, la peinture, Wilfredo Lam surtout, mais aussi Picasso étaient ses amis. Quelle était leur influence sur sa manière d'écrire? Peut-être la réponse est-elle du moins en partie dans un poème qu'Aimé Césaire a dédié à Wilfredo Lam. Et peut-être, je vous propose maintenant, puisqu'on parle de ça, de nous lire ce poème d'Aimé Césaire, dédié à Wilfredo Lam.
Alors, c'est un poème qui est simplement intitulé « Wilfredo Lam » et qui est extrait de son dernier recueil poétique « Moi la mineure » et qui dit ceci « Rien de moins à signaler que le royaume est investi, le ciel précaire, la relève imminente et légitime. Rien ?» Sinon, le cycle des genèses vient sans préavis d'exploser et la vie qui se donne sans filiation, le barbare mot de passe. Rien, sinon le frais frissonnant des formes qui se libèrent, des liaisons faciles et hors des combinaisons trop hâtives s'évadent. Mains implorantes, mains dorantes, le visage de l'horrible ne peut être mieux indiqué que par ses mains offusquantes. Liseur d'entrailles et de destins violés, récitant de Macumba, « Mon frère, que cherches-tu à travers ces forêts de cornes, de sabots, d'ailes, de chevaux ?» Toutes choses aiguës, toutes choses bisaiguës, mais avatar d'un dieu animé au saccage en vol de monstres. J'ai reconnu au combat de justice le rare rire de tes armes enchantées, le vertige de ton sang et la loi de ton nom. Effectivement, ce poème de César adressé à Wilfred Olam, à mon sens, contient ce qui est sans doute caractéristique de la poésie de César, c'est une sorte de rythme. C'est un rythme. Le rythme de la poésie césarienne est un rythme qui lui appartient. Et en le lisant, on sent tout à la fois d'abord une fascination pour le jeu de mots, qu'est-ce qu'il aimait comme jeu de mots, qu'on peut retrouver également dans son théâtre, mais également un goût pour la préciosité de la langue. Et au fond, tout dans ce rythme traduit en quelque sorte une connaissance assez profonde de la langue et surtout de la valeur du mot. Et enfin, ce qui est intéressant dans cette poésie, c'est une poésie que je pourrais considérer pour ma part comme une poésie de la générosité. Césaire est sans doute en poésie l'un des poètes antillais le plus généreux qui soit. Et on le voit très bien, non seulement aux dédicaces qu'il fait à ceux pour qui il a de l'estime, mais également dans cette sorte de générosité qui est contenue justement dans le mot poétique. Et c'est cela qui fait la particularité de la poésie césarienne, sans entrer bien sûr, n'est-ce pas, dans des grands débats qui seraient ici, des grands débats intellectuels, scientifiques, que les professeurs d'université aiment bien, mais bon, que je n'infligerai pas à vos auditeurs.
D'accord. Et puis quand même, je ne peux pas m'empêcher non plus de faire référence comme moteur d'écriture à l'attachement d'Aimé Césaire à sa terre, à son roc, je devrais dire, et en me référant pour cela à l'explication que donne Daniel Maximin dans son livre « 100 poèmes d'Aimé Césaire » sur le dernier recueil « Moi, laminaire ». Il explique que le mot « laminaire » c'est le nom d'une algue fragile, ballottée au gré des vagues entre l'air, l'eau et la terre, mais une algue qui reste solidement attachée à son rocher, sans qu'aucune tempête ne puisse l'en arracher. Ça aussi, j'ai l'impression que ça caractérise quand même pas mal l'œuvre et la personnalité d'Aimé Césaire. Mais pour en terminer maintenant, Romuald Fonkoua, j'aimerais quand même qu'on en revienne au Césaire politique. Au Césaire politique et au paradoxe, en quelque sorte, de sa traversée du siècle. Son engagement pour la négritude, comme Senghor, pour l'africanité, l'a notamment clairement distingué des défenseurs de la créolité, Raphaël Confiant et Patrick Choimoiseau notamment. Et j'aimerais bien que vous évoquiez un petit peu, je ne sais pas si on peut parler de polémique, mais enfin disons de divergence entre Raphaël Confiant, Patrick Choimoiseau et Aimé Césaire sur ce terrain-là. Et peut-être aussi, j'aimerais bien qu'à cette occasion, pour honorer la mémoire d'Édouard Glissant, est-ce que vous pouvez également nous rappeler la position qu'avait prise ce dernier sur ce terrain-là ? Si je me souviens bien, Édouard Glissant n'était pas très convaincu, lui, par le concept de créolité. Il parlait plutôt de créolisation, mais dans un sens beaucoup plus large, puisque pour lui, la créolisation, si j'ai bien compris, c'était en fait une sorte de métissage, plus qu'autre chose. Et puis, par-delà ces divergences, par-delà ce dialogue entre Aimé Césaire et Raphaël Confiant, Patrick Choimoiseau, Édouard Glissant, j'aimerais que vous nous parliez également du regard d'Aimé Césaire sur la France. Son combat contre le colonialisme pour le développement social de la Martinique ne l'a jamais conduit à rompre la relation entre celle-ci et la France. Il a voulu la départementalisation de la Martinique. Il n'a jamais été indépendantiste. Donc la question qu'on se pose, c'est, au fond, Aimé Césaire, aimait-il ce pays, la France, qui était le sien, mais dont il critiquait vertement, pour dire le moins, le passé colonial, et qui veut aujourd'hui, je le souligne, l'honorer au Panthéon.
Oui, est-ce que Césaire aimait la France ? Ce n'est pas parce qu'on critique la France qu'on la déteste. Et je crois que de ce point de vue, il me semble que la question de l'amour de Césaire pour la France ne se pose pas. En revanche, critiquer la colonisation, oui, il fallait le faire. Et il a bien fait de le faire. Et je crois qu'en fait, la colonisation est critiquable. Il le fait d'ailleurs de façon assez explicite dès le départ, dès le cahier de retour au pays natal, et de façon beaucoup plus explicite encore dès 1948, lorsqu'il publie dans la revue Chemin du Monde le début de ce qui sera beaucoup plus tard le discours sur le colonialisme, c'est l'impossible contact. Ce qu'il a très vite compris, c'est qu'au fond, il y aura toujours quelque chose de biaisé dans la relation entre l'Europe et ses colonies. Quelque chose de pas abouti entre la France et ses anciennes colonies et quelque chose de pas abouti qu'exprime assez clairement la 4e République. Parce que la 4e République, c'est la République de toutes les utopies, mais c'est aussi la République de la découverte de toutes les réalités. C'est peut-être bien de penser à la Grande France, à la France sur tous les continents. C'est bien de penser à la Confédération, à la relation entre la France et les États fédérés. Mais c'est aussi assez évident de constater qu'on ne peut pas réaliser justement la fédération. Ce n'est pas possible. Et à la fin de la 4e République, tout le monde a compris qu'au fond, il n'y a qu'une seule issue à la relation entre la France et ses anciennes colonies, ce sont les indépendances. Alors de là, la remise en cause effectivement chez lui d'une idée qui est celle de la départementalisation, qu'il a soutenue, qu'il a défendue de façon brillante à l'Assemblée nationale à l'époque, contre un certain nombre d'ailleurs de récalcitrants guadeloupéens pour la plupart, qu'il a dû convaincre, et qui, au fond, se révèle cette idée de départementalisation comme une sorte de coquille vide. Et il va se battre pendant presque 45 ans, et ceci explique peut-être sa longue durée à l'Assemblée nationale et peut-être également sa longue durée comme maire de Fort-de-France. Il va se battre pour que cette idée de départementalisation débouche sur quelque chose de concret, sur quelque chose de pratique, que l'utopie prenne corps, qui est une sorte de réalité, qu'au fond, il ait une véritable relation intime, si c'est possible, entre la France et ses anciennes colonies, que le grand rêve de civilisation imaginé par les découvreurs, puis par les esclavagistes éclairés, je pense ici à Cholcha, ou par un certain nombre de colonies, ait une véritable débouche sur quelque chose de concret. Mais il s'aperçoit que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible du tout. Mais effectivement, cette idée-là, va le pousser non pas à penser à une indépendance, puisqu'il se rend bien compte que l'indépendance pour les Antilles n'est pas la solution. Et il le dira toujours, écoutez, l'indépendance ou la départementalisation n'est pas la question. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'émancipation. C'est le terme qu'il utilisait toujours, c'est l'émancipation. L'émancipation des anciens esclaves vers un système de gouvernement qui leur sera beaucoup plus propre, auquel ils adhéreront tous, ce qui est aussi une forme d'utopie, il faudrait bien le signaler en passant. Mais au moins, dans cette émancipation, il y a la conscience d'une reconnaissance d'une individualité ou alors de la reconnaissance d'une identité, la reconnaissance de l'idée que ce qui se passe en France n'est pas nécessairement transportable aux Antilles, qu'il y a une manière antillaise de pouvoir vivre sa relation à la France qui n'est pas susceptible d'être transposée en France aussi. Je crois qu'en fait, il y avait cette idée. Donc, du point de vue politique, son combat vise à donner aux Antilles françaises les moyens de pouvoir, à terme, se gouverner elles-mêmes pour reprendre effectivement l'expression qui était la sienne. Ça, c'est pour la dimension politique. Alors, l'autre dimension qui n'est pas sans conséquence, c'est le discours sur la créolité, le discours sur la négritude. Alors, évidemment, pendant longtemps, et non sans raison, Césaire a pensé que c'était la négritude qui était le moyen d'expression des Antillais et le moyen de reconnaissance de leur liberté. Pour des raisons évidentes, c'est que pendant longtemps, le nègre n'était rien dans le système esclavagiste à la Martinique. Il était moins que rien, et comme le dit dans le cahier au pays natal, il n'était même pas un chiot, moins qu'un chiot, moins qu'un mendigo. Et effectivement, cette idée de revendication de la négritude était une idée qui permettait de donner une certaine identité à l'esclave nègre non reconnu comme tel. Alors, en ce sens-là, bien sûr, il participe de tous les mouvements de la négritude du monde, que ce soit les mouvements noirs américains des années 20, comme le mouvement du New Negro, ou alors la négritude africaine de Senghor, qui va prendre une dimension politique vers les indépendances, comme on le sait. Simplement, en procédant ainsi, il a peut-être, parce qu'il s'est lancé très longtemps en politique et qu'il a oublié de nourrir sa pensée, il n'a pas vu qu'il y avait une évolution sociale aux Antilles qui n'allait plus du côté de l'Afrique, puisque celle-ci était devenue indépendante, qui remettait en cause les relations qui avaient existé entre les Antillais et les Africains, puisque ceux-ci étaient à l'origine de leur déportation, qu'on le veuille ou non. L'Empire du Bénin, par exemple, avait été partie prenante de la déportation et du système de l'esclavage, et qu'une certaine jeunesse antillaise venait en quelque sorte remettre en cause cette sorte d'unité du monde noir qui avait été à l'origine de la rencontre entre tous les intellectuels noirs du monde au milieu des années 50. Et derrière cette revendication va apparaître d'abord un premier mot que va créer Edouard Glissant, c'est le mot d'antillanité. Ça n'est plus l'africanité, ça n'est plus l'anglité, c'est l'antillanité. Nous avons un continent qui s'appelle les Antilles. Derrière ce continent qui s'appelle les Antilles, nous pouvons revendiquer une identité, c'est l'antillanité. Et Glissant va se rendre compte assez rapidement que même le mot antillanité est un mot qui, au fond, ne résout pas le problème des Antilles. C'est compliqué, les Antilles, c'est vaste. Il y a des territoires qui sont des territoires indépendants, il y en a qui ne le sont pas, il y a plusieurs langues. Bon. Et derrière cette notion d'antillanité, qui était une notion politique visant à donner une certaine indépendance aux Antilles, il va très vite aller du côté de la créolité. C'est lui qui, au fond, va donner un premier corps à cette notion et va quitter assez rapidement cette notion pour aller du côté de la créolisation. Pourquoi est-ce que antillanité, créolité et créolisation sont dans l'esprit d'Edouard Glissant l'évolution d'une même idée? Parce qu'il y a, au fond, la reconnaissance, non pas du nègre, comme fondateur de la nation ou bien de la cité ou de la culture aux Antilles, c'est le marron, c'est le marronnage, c'est le système du marronnage, c'est-à-dire tous les nègres qui sont arrivés aux Antilles, mais qui, très vite, se sont rebellés contre l'administration coloniale, contre les esclavagistes, et qui vont façonner l'identité des sociétés antillaises. Et c'est bien cette notion de marronnage qui va, en quelque sorte, créer chez lui la base de sa réflexion. Ce que Césaire ne va pas admettre, c'est que l'on parle du marron comme si c'était une entité qui était une entité antillaise. Ce qu'il ne veut pas que l'on oublie, c'est que ce marron est aussi un Africain. Et dans un entretien qu'il avait donné assez rapidement, et c'est le seul entretien qui porte chez lui sur cette réflexion-là, puisqu'il ne s'est vraiment jamais étendu là-dessus, il dit « Oui, mais avant le marron premier, il y a le nègre premier. Alors si on supprime le nègre premier, on ne comprend rien du tout au marron. » Voilà. Donc la réponse à Glissant était assez claire, à savoir qu'il fallait absolument revendiquer l'Afrique noire, et c'est en quelque sorte ce qui soutient sa pensée.
Romuald Foucoua, je voudrais vous remercier d'avoir parfaitement répondu à ma question qui était un peu provocante, sur l'amour de la France de la part d'Aimé Césaire. Il est vrai, absolument vrai, et il faut le répéter, que l'amour, ça se traduit par la critique.
Bah absolument, si on n'aime pas, on ne critique pas.
Voilà, exactement. Donc c'est une bonne manière certainement de conclure cette émission. Nous n'allons pas tout à fait la conclure, parce que nous allons faire maintenant une lecture finale d'un poème d'Aimé Césaire que Romuald Foucoua a choisi de lire.
C'est un poème qui est intitulé « J'ai guidé du troupeau la longue transhumance ». Il me semble que c'est une sorte de testament, entre autres, de Césaire, tiré de son recueil « Moi, la mineure ».
Écoutons le testament.
« Marcher à travers des sommeils de cyclones, transportant des villes somnambules dans leurs bras endoloris. Croisé à mi-pente du saccage des quartiers entiers d'astres fourvoyés. Marcher, non sans entêtement, à travers ce pays sans carte dont la décomposition périphérique aura épargné, je présume, l'indubitable corps ou cœur sidéral. Marcher sur la gueule, pas tellement bien ourlée, des volcans. Marcher sur la fracture mal réduite des continents. Rien ne sert de parcourir la grande fosse, d'inspecter tous les croisements, d'examiner les ossements de parent à parent. Il manque toujours un maillon. Marcher, en se disant qu'il est impossible, sur la surtension atmosphérique captée par les oiseaux par la foudre, n'ait pas été retransmise quelque part, en tout cas, quelque part, un homme qui est, qui l'attend. Il s'est arrêté un moment. Le temps pour un nuage d'installer une belle parade de trochilidés. L'éventail, à n'en pas douter, a éventé d'or jeune la partie la plus plutonique d'une pépite qui n'est pas autre chose que le ventre flammé d'un beau temps récessif.
Merci Romuald Foucoua, merci Aimé Césaire.
Merci à Césaire surtout.